Je crois qu'on peut commencer pour vous rappeler du contexte. Il faut que je saute une leçon, un titre d'une leçon dans le programme parce que je suis trop lent. Mais c'est bien, je saute sur la... Je saute la mécanique statistique du échafaudage. On apprendra quelque chose sur l'échafaudage dans la leçon numéro 7. On n'entrera pas dans la mécanique statistique en profondité. Pas une grande perte. Et autrement, nous sommes presque en synchronie avec le programme officiel. La dernière fois, je vous ai donné un aperçu des petites pièges, on peut dire, dynamiques qu'on utilise pour modéliser, pour raisonner sur le comportement de cellules ou des réseaux d'interaction entre les protéines. Et c'est un petit système combinatoire. Et j'ai souligné que, presque comme un langage, et le langage contient des propriétés qui sont héritées par exemple, l'assemblage entre des protéines qui se produit avant d'une particulière décision, par exemple, de modifier un substrat ou de faire quelques décisions. Par exemple, la liaison entre un substrat et l'enzyme a des propriétés bien particulières qui sont héritées par la cinétique de la modification du substrat par l'enzyme, comme la saturation et l'ordre de réaction qui peut varier entre l'ordre 1 et un ordre 0. Et après, nous avons appris quelque chose du transistor moléculaire, cette petite cercle, cette loupe entre un enzyme qui fait quelque chose, qui fait une modification, et une autre enzyme qui défait cette modification. Et ce n'est pas la réversibilité, c'est vraiment un circuit. Et des simples décorations de cette piège peuvent vous donner un rayon, un spectrum de comportement avec lequel vous pouvez produire presque chaque comportement désirable. Et par exemple, beaucoup de fois, les gens décomposent des réseaux plus grands dans ces unités. C'est un peu comme les ingénieurs. L'autre fois, j'étais peut-être lent et vite, tous les deux. Il y a quelques calculations, mais c'est difficile pour moi à être vite avec le vocabulaire que je manque, en particulier pour la mathématique, pour être la dextérité linguistique qui serait très utile pour démontrer les calculations très vite. Mais, mais d'autres fois, toutes les calculations qui étaient importantes l'autre fois sont bien connues et sont élémentaires. On peut les trouver presque partout. Mais mon intention était plus de vous donner un aperçu des pièges, du langage dynamique avec lequel on modélise classiquement. Mais par exemple, le détail est très important. Le détail est important parce que dans le cas de cette petite... qu'est-ce que c'est, une boucle. Dans le cas de cette boucle, nous avons vu qu'il y a deux régimes. Un régime où le substrat ne saturait pas l'enzyme et ça produit cette hyperbole. Et un régime où les enzymes sont saturées, parce que ça, c'est la concentration à échelle logarithmique de total de substrat. Et quand il est saturé, on a cette commuteur. Mais il y a une différence. Le modèle écrit avec des simples réactions. L'enzyme A ou K ici lie le substrat, le transforme, et l'enzyme qui défait, le P, lie le substrat qui est modifié et défait la modification. Mais si l'enzyme K peut aussi se lier avec le substrat qui a été modifié parce qu'il la liaison ne reconnaît pas ou l'enzyme ne teste pas si le substrat est modifié ou non, et il le modifie seulement s'il n'est pas modifié, mais la liaison ne teste pas la modification. Alors vous avez un petit changement du schéma réactif, et ça détruit complètement le comportement du commuteur. Et ça détruit complètement ce comportement parce que dans ce cas, nous, on a quelque chose qu'on appelle feedback, product inhibition. Ça veut dire que le produit de cette réaction ici, de cette action du K, le produit S noir, peut se lier avec K parce que les S ici n'est ni blanc ni noir, ça veut dire qu'il peut être tous les deux. Et alors, le K ne fait pas distinction s'il se lie avec un S blanc ou un S noir. Et ça veut dire que s'il y a beaucoup de S noir, et c'est une inhibition de l'enzyme K. Et ça détruit complètement le comportement de commuteur. Ça, c'est seulement pour vous dire que les détails mécaniques sont très importants. On ne peut pas simplement combiner cette piège et négliger les détails. Alors, évidemment, modèles ne sont pas la vérité. Les modèles sont des cartes, ils ne sont pas les territoires. Ils servent à convertir des faits dans la connaissance, parce que le monde n'est pas fait de faits, il est fait de connaissances. Et s'il était fait de faits, la science était facile, parce qu'il fait seulement collecter les faits. Et c'est un peu plus difficile que ça. Et évidemment, un modèle n'est jamais correct ou pas correct, il est utile ou pas utile. Eh bien, alors ça nous porte à notre prochaine leçon. Et la question est qu'est-ce que sont les limites de cette modélisation classique dont nous avons parlé l'autre fois. Il n'y a rien de mauvais à modéliser dans cette manière classique. Mais il faut être conscient des limitations. Et après, on peut choisir avec plus sagesse. Évidemment, beaucoup des comportements dans la cellule sont stochastiques, sont probabilistiques, parce que les concentrations sont bas. Et alors, il y a des phénomènes stochastiques. Mais ça, c'est pas vraiment c'est un problème parce que c'est un réseau stochastique et complexe. C'est difficile à l'approcher de manière analytique. Alors, il faut simuler. Mais alors, ce n'est pas un problème fondamental de la modélisation classique, parce que tous ces pièges que je vous ai montrés peuvent être modélisés de manière stochastique. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème est plus la complexité combinatoire, parce que si vous voulez modéliser, comme j'avais dit, les détails peuvent être très importants. Si vous voulez capturer le détail, alors très vite, vous trouverez que le nombre des espèces moléculaires, l'état qu'elles peuvent assumer est astronomique. Parce que si vous avez une protéine qui peut être modifiée à 10 sites, et c'est pas beaucoup, vous avez plus de 1024 états. Si cette protéine avec 1024 états se lie avec une autre protéine avec 1024 états, une protéine d'un type différent, vous avez une combinaison et vous avez un dimère qui a un million d'états. Et alors, on ne peut pas écrire un million d'équations différentielles, ni stochastiques, ni déterministiques. Ce n'est simplement pas possible. Et ça, c'est une ce n'est pas la seule source de complexité combinatoire. Et je crois que la complexité combinatoire est importante parce qu'elle est partout. Et s'il est partout, elle a une signification. Signification peut-être, il aide l'évolution ou il aide l'apprentissage des cellules. Il les fait plus... il fait si que leur comportement peut être plus plastique. Nous ne savons pas vraiment la raison, mais cette complexité combinatoire est partout. Et alors, il faut peut-être être un peu plus fidèle à cette complexité. Eh bien, Le problème de la... De la j'essaie d'illustrer un peu le problème de cette... De cette le problème de la méthode classique quand elle rencontre la complexité combinatoire. Il faut être conscient du fait que si nous avons un système avec des différents états moléculaires, par exemple le cas de notre enzyme K qui se lie à S, nous écrivons, nous lui donnons à cette espèce moléculaire, nous lui donnons un nom, ES, ou KS, par exemple, mais c'est un nom arbitraire. Le nom n'a aucune importance pour les équations. Vous pouvez même nommer cette dimère KS Ferdinand. C'est la même chose pour la mathématique. Parce que les équations différentielles ont des variables qui se réfèrent à des espèces et pas à leur structure. La structure des espèces n'est pas présente, n'est pas utilisée par la mathématique ou par les équations. Alors, vous pouvez renommer le nom de cette espèce, des variables comme vous voulez, si vous le faites d'une manière cohérente. Et alors, ici, par exemple, on a un système où on a un enzyme K qui peut se lier et phosphoryler, modifier un substrat S chez deux, près de deux sites, on dit, près de deux sites, A et B. Alors ça, ce sont toutes les espèces qui sont possibles. Vous avez l'enzyme seul, vous avez l'enzyme K qui est lié au site A, dans le cas que l'enzyme, que le substrat S est phosphorylé ou modifié sur tout le site déjà, ou, etc. Vous avez toutes ces combinations entre l'état de le substrat, qui sont quatre états possibles, et la liaison de l'enzyme AS, presque les deux sites. Et ça, ce sont les équations différentielles pour la cinétique. C'est très simple. Mais imaginez maintenant que alors, chaque terme qui est relais ou qui réfère à ce modèle ici avec la kinase est un cercle vert. Ce sont 13 équations. Si maintenant vous décidez d'ajouter une phosphatase, un enzyme qui défait, et que se lie aussi au site A et B, mais il défait les modifications A et B, vous avez... 21 nouvelles équations et vous devez modifier toutes les 13 équations que vous avez eues en avant. Et si la liaison entre P et S et la liaison entre K et S sont indépendants, alors on devrait exploiter ça. Mais ça, c'est plus facile si vous avez une représentation de votre système qui tient compte de la structure, de fait que les espèces sont des structures et pas seulement des noms des boîtes noires. Alors, comme ça, je veux seulement dire que modifier, c'est un modèle classique. Par modèle classique, j'entends un modèle qui est construit par des équations cinétiques différentielles. Déterministique ou stochastique, ça ne fait aucune différence parce que dans le cas stochastique, vos équations différentielles sont les équations de la probabilité jointe. Alors, c'est la même chose. Vous êtes victime de la complexité aussi, là. C'est très difficile à modifier les modèles. Et en particulier, si vous essayez de suivre le développement d'un particulier système cellulaire que vous intéresse, alors, la connaissance de ce système change de jour en jour. Et alors, il faut que les modèles peuvent suivre ce développement, cette évolution de la connaissance. C'est très difficile de faire ça avec ce type d'approche parce que, comme vous voyez, un petit détail que vous avez oublié ou qui est apparu de nouveau dans la littérature, vous force à changer presque tout. Et ça, c'est très difficile, et les chercheurs n'aiment pas faire ça. Alors, un modèle, c'est peut-être un produit, un artefact, produit par un étudiant il y met une thèse, 3 ans, 4 ans, et après, quand votre étudiant se déplace, le modèle est perdu, pratiquement. Il serait très utile d'avoir des modèles qui sont en vie, qui peuvent être adaptés au changement de la connaissance. Essentiellement, c'est ça que j'avais dit. Maintenant, seulement pour récapituler, alors c'est important de comprendre que le formalisme de raisonnement à travers des équations différentielles sépare la structure des agents, la structure des espèces moléculaires du formalisme. La structure n'a aucune importance. Elle est implicite, peut-être, dans le fait qu'une variable n'est la même qu'une autre variable, évidemment, mais le fait qu'un enzyme qui est lié à un substrat et que l'enzyme est toujours dans cette complexe n'est pas réfléchi directement ou reflété directement dans les équations. Et c'est très difficile de distinguer entre la cinétique et la causalité parce qu'il y a deux possibilités avec lesquelles un événement peut précéder un autre événement, simplement dans un cas, simplement parce que l'événement A est se produit plus vite que l'événement B. Mais dans un autre cas, peut-être l'événement A précède l'événement B parce qu'il cause l'événement B. Il est nécessaire pour que l'événement B puisse se produire. Alors, ces choses sont très difficiles à distinguer, à découpler dans le formalisme classique. Il faut des autres méthodes. Et comme j'avais dit, le formalisme sépare la connaissance du formalisme. Bien. Pour peut-être répéter ça d'un angle différent, la version avec laquelle j'essaie d'expliquer le problème fondamental à mes amis, c'est que dans la physique, nous avons hérité une approche à la modélisation dans laquelle je crois la compréhension précède la modélisation. C'est-à-dire, si vous êtes un physicien ou si vous êtes un scientifique qui modélise dans la tradition de la physique, faire un modèle signifie d'avoir déjà compris quelque chose, pas tous, mais quelque chose de la réalité que vous voulez modéliser. Parce que c'est ça, c'est cette compréhension que vous dites ce qui est important et ce qui n'est pas important. Vous avez fait déjà cette décision. Et ce que va entrer, ce qui fait part qui est parti du modèle, ce qui n'est pas qui est dehors du modèle. Pour faire une décision, une bonne décision, il faut avoir compris quelque chose. C'est pas dire que vous avez compris correctement, mais vous avez une hypothèse au moins, une compréhension. Temporaire, mais vous avez un cadre. Et alors, le modèle formel sert à expliquer le cadre dans une façon, dans un langage qui n'est pas ambigu et que vous pouvez communiquer aux autres clairement, et où vous pouvez faire de la mathématique pour déduire des conséquences de votre hypothèse qui ne sont pas accessibles immédiatement à l'intuition. Okay. Ça, c'est... pour moi, un exemple formidable de cette vision, de cette hypothèse, est l'architecture. Et vous connaissez Jørn Utzon ? Jørn Utzon, c'était l'architecte qui a vaincu le projet pour... Remporté. Qui a remporté le projet de Sydney. Il a essentiellement dessiné l'idée de l'opéra de Sydney sur un salviette. Il a déposé les plans avec lesquels il a gagné le contrat. C'était des plans très, très simples. En fait, pas de plans détaillés du tout. C'est presque une chose comme ça. Mais quand on a vu ça, c'était complètement clair que c'était le projet qui a capturé l'idée du port de Sydney. Parce que, évidemment, cette, cette, les toits sont les voiles des bateaux dans le port. Et c'était un coup génial de comprendre une situation. Et c'est un peu un modèle, un bon modèle dans la physique à cette qualité, parce qu'il n'avait pas de plan et il y avait une durée de 20 ans à construire, à réaliser cette surface, parce qu'on n'avait pas la technologie à l'époque. Eh bien, alors je crois que dans la biologie, peut-être il y a quelque chose, toute la situation s'inverse, se reverse. Ou peut-être la modélisation doit précéder la compréhension, mais dans une manière fondamentale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le coup de génie de Hudson en regardant le port de Sydney. Vous voyez cette réseau qui sont des hairballs, comment on dit, des entanglements, des goulots d'étranglement, oui, exactement. Oui. Ça, le son approprié. Et c'est très difficile de couper à travers cette complexité et d'avoir une intuition ce qui est important et ce qui n'est pas important. Alors, la situation se reverse. Et ça, c'est difficile parce que dans la situation de la physique, on a des critères pour évaluer un modèle. Un modèle doit être élégant, il doit être concis, il doit être fruitful, comment dire, productif. Mais si tous ces critères n'appliquent plus quand la situation se reverse. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire faire un modèle dans ce cas? Et je crois qu'une possible réponse est qu'un modèle, dans cette situation ici, doit être une représentation formelle et executable. Exécutable, c'est facile le français, exécutable, des faits sur lesquels il est basé. Alors, c'est-à-dire l'idée est de capturer des faits, parce que vous ne savez pas peut-être quels faits sont importants, et vous capturez le plus possible de faits pour les convertir dans des instructions qu'un ordinateur peut exécuter en ensemble. Et dans ce cas, c'est un modèle très inélégant, parce qu'il sera un modèle très grand, typiquement. Il sera un modèle où... l'idée ici, et vous voyez peut-être la prochaine fois, l'idée est que ce n'est pas de détruire les modèles élégants, parce que je veux les modèles élégants. Et le but, l'objectif, est de retrouver les modèles élégants. Mais peut-être le modèle ne peut pas être né élégant au départ. Il doit commencer comme un modèle complexe qui est simplement une collection de faits. Le modèle devient vraiment un objet empirique, presque. Vous faites des expériences, des expériences avec ce modèle, des expériences virtuelles. Mais dans un laboratoire qui est bien construit et qui est utile, et construire ce laboratoire, c'est la difficulté pour l'informatique et pour les biologistes. Et l'espoir est qu'en faisant des expériences avec un modèle de ce type, vous comprenez pas pour pas quels sont les aspects importants de la question que vous êtes intéressé. Et si ça vous porte quelque part, alors vous pouvez oublier le modèle complexe et vous avez distillé un modèle plus proche à l'idéal des physiciens. Alors c'est ça l'idée. Mais si on départ de cette façon, si on commence de cette façon, ça veut dire qu'il faut vraiment fusionner la représentation de la connaissance avec la modélisation. C'est un problème que la physique n'avait pas. C'est un problème qui vient quand vous êtes dans un royaume comme la biologie où il n'y a pas encore une théorie fondamentale, une théorie du possible. Il y a une théorie du possible dans la physique, mais il n'y a pas une théorie du possible dans la biologie. Et alors, dans ce cas, il faut essayer d'être fidèle et de comprendre la complexité des faits. Une complexité que dans la physique n'est pas, ou dans la physique classique, n'est pas si présente. Eh bien, alors, dans la biologie, les agents qui nous intéressent, évidemment, il faut définir un scope, un périmètre. Un objectif, oui, parce que si vous voulez modéliser, parce qu'une protéine seule peut être, d'un point de vue, peut être un système extrêmement...
Envergure.
Bien, une enzyme seule peut être, d'un certain point de vue, peut être un système extrêmement complexe, parce que c'est fait de milliers d'atomes. Mais c'est une complexité qui les biophysiciens sont bien approchent très effectivement. Mais dans notre cas, la décision est d'être plus proche à ce qu'on dit la biologie des systèmes, c'est-à-dire à une échelle plus grande où une protéine est un agent. Et on est plus intéressé à représenter les interactions entre les protéines, pas d'une façon biophysicale, mais où la biophysique nous informe, mais n'est pas représentée dans le modèle. Je vous montre immédiatement. Eh bien, comme vous savez, les protéines à ce niveau ici, les protéines bien si qu'ils sont complexes, ils ont des domaines qui peuvent être caractérisés statistiquement et aussi d'un point de vue structurel. Ils ont des domaines avec lesquels ils interagissent. Et ils ont aussi des sites où ils peuvent être modifiés. Et la modification peut changer leur comportement, c'est-à-dire quelle autre protéine ils peuvent reconnaître, etc. Eh bien, une autre chose qui est importante, j'ai dit ça dans la leçon inaugurale, je crois, est que les protéines sont très grandes. Et alors, une modification d'une protéine, par exemple une phosphorylation, d'un point de vue chimique, elle modifie la protéine, c'est une substance différente chimiquement. Mais d'un autre point de vue biologique, c'est vraiment le même objet, mais dans un état différent. Et ça, c'est complètement différent dans la chimie organique, où vous ne direz pas que l'éthanol est un état différent de l'éthane, simplement parce qu'il y a une OH groupe qui remplace une H groupe. C'est pas une modification de l'éthane, c'est une substance complètement différente avec des propriétés fondamentalement différentes. Et alors, dans la chimie, si les objets sont petits, une modification change l'objet. Quand l'objet est grand, une modification retient l'identité du objet, mais on parle d'un changement d'état. Eh bien, alors, de ce point de vue, on pourrait penser à un langage dans lequel une protéine est représentée par un agent. C'est représenté par un atome. Un agent, ça veut dire c'est un atome. Un atome, c'est un objet formel qui n'a pas de structure interne. Vous stoppez là. Évidemment, si j'ouvre la boîte d'une protéine de cet agent, je vois beaucoup de complexité qui est le domaine du biophysicien, mais les connaissances du biophysicien sont très utiles pour me dire, par exemple, que cette protéine A a certains domaines, a certaines propriétés structurales, etc., qui influencent comme je représente le potentiel interactif de cette protéine, mais cette connaissance ne sont pas explicitement représentées parce que j'ai décidé de encapsuler cette protéine comme dans une boîte et ça, elle a seulement un nom. Mais les protéines peuvent se lier entre eux Et, premièrement, les protéines, les agents ont des sites qui sont des autres nœuds. Dans cette représentation, ce sont des sites, des nœuds qui sont possédés par l'agent. Et c'est à travers ces nœuds que la protéine peut interagir d'une manière qui est gouvernée par des règles. Nous introduirons les règles dans un moment. Et alors, c'est-à-dire les sites dans l'agent sont les capacités de cet agent, représentent de quelque façon abstraite les capacités de l'agent à interagir. Et vous pouvez avoir par exemple un lien entre deux sites, où un site peut être modifié, et le lien entre deux sites forme un complexe. Le complexe de A et C n'est pas un agent maintenant, c'est un complexe, il a une structure. Ce n'est pas une structure très, très formidable ici, mais c'est une structure néanmoins. Ce n'est pas comme le ES, comme le KS dans la modélisation classique, où le KS, en ce qui regarde les équations, le dimère entre enzyme et substrat, en ce qui regarde les équations, n'a aucune structure. Ici, le complexe, le dimère, a une structure. Parce que les deux ne sont pas... Dans le modèle classique, ça, c'est un agent, un nouveau agent. Mais dans le modèle basé sur les agents ici, les deux agents qui sont liés forment un complexe qui est différent. C'est comme une molécule. Bien, nous introduirons plus tard aussi une évidemment, c'est pour un ordinateur, c'est plus facile à traiter un langage linéaire qui représente, d'une manière très simple, des graphes de ce type ici. Laissez-moi souligner la spécialité de ce graphe. Ça, c'est un graphe. La particularité de ce graphe. Ça, c'est un graphe que vous connaissez. C'est un graphe normal, un graphe plein, où vous avez des nœuds et des liens entre les nœuds. Ça, les graphes que nous intéressent sont des site graphs, des graphes de sites, dans lesquels, comme j'avais dit, un nœud possède des autres nœuds. C'est peut-être une hiérarchie de nœuds, si on veut. Et les liaisons à travers les liaisons ne sont pas des liaisons entre les agents, mais entre les sites, les nœuds qui s'appellent les sites, possédés par les agents. Il y a des différentes versions de graphes de sites. Une version, c'est une version qui est très, très utile pour représenter, par exemple, les possibilités d'interaction entre les protéines. Par exemple, si vous avez des protéines A, B, C, D, E, et vous voulez représenter les possibles interactions, pas les interactions réalisées, mais les possibles réactions, alors vous avez un graphe de site comme ça, où vous avez... Une copie de chaque type de protéine dans votre système. Et chaque protéine montre tous les sites qu'elle possède. Et un site peut entretenir, on dit ça? Entertain two links? Il peut avoir deux liens parce que c'est... Comment on dit ? On peut participer, exactement. Merci. On peut participer avec deux liens, un lien E et un lien AD, parce que c'est une représentation des possibilités. Il y a un autre graphe de site qui est important pour nous, et ça, c'est un graphe qui est réalisable. On pourrait penser de ce graphe ici, si vous êtes un informaticien, comme un type. Et alors, on peut construire des graphes qui sont cohérents avec ce type. C'est-à-dire, ce sont des graphes qui ont seulement des liens qui sont présents ici. Mais Dans ce graphe, parce que c'est un graphe qui représente une molécule, par exemple, il doit être réalisable, c'est-à-dire un site peut avoir seulement non lien ou un lien, at most, au plus un lien. Ici, on peut avoir plusieurs des liens parce que ce sont possibilités. Dans ce type de graphe, on a un site au plus un lien. Parce que le site est une ressource, et si la ressource est occupée par un lien, il ne peut être occupé par un autre lien. Mais, en contraste ici, un type peut être présent avec des instances multiples. Parce que, évidemment, vous pouvez avoir dans un complexe deux instances de protéines B, par exemple. OK? Et. Oui. Bien. Je veux un peu faire je vais faire une comparaison pour un peu de temps. Je vais faire une comparaison avec la chimie parce que évidemment cette idée n'est pas nouvelle du tout parce que c'est la chimie exactement que procède de la même façon. La chimie représente ces objets, les molécules, comme des graphes. En fait, ce sont des graphes de sites aussi parce que un C peut être entendu comme compris comme un objet qui a quatre sites. Mais la chimie a fait des distinctions différentes. Il y a des liens. Liaisons qui sont différentes, etc. Mais c'est presque la même idée, c'est le même esprit. Et alors, c'est une réécriture de graphes pour tous les deux cas, pour la chimie et pour cette biologie moléculaire dans laquelle les protéines sont comme les atomes dans la chimie et les complexes, c'est-à-dire les agents liés entre eux, sont comme des molécules. Ça, c'est l'idée. Mais évidemment, dans la chimie, les règles. Dans cette représentation, vous avez l'idée d'une règle, c'est-à-dire une transformation d'un graphe de site qui est un schéma, un pattern, qui. Ça, c'est une transformation, c'est-à-dire ça devient ça, et ce schéma doit avoir une correspondance dans un graphe plus grand. C'est une molécule qui est représentée dans sa totalité, mais ça, c'est un schéma, c'est-à-dire c'est pas une molécule, ça parce qu'il y a le C n'a pas tous les liens occupé, c'est un schéma. Si ce schéma est contenu et a une correspondance dans une molécule, alors vous pouvez réécrire cette molécule dans une nouvelle molécule, dans le produit, transportant ces transformations. Non, d'un point de vue mathématique, il faut faire attention, naturellement, parce que la flèche ici est une autre type de transformation que la flèche ici qui indique un isomorphisme, un subgraph isomorphisme, qui indique une correspondance. Alors ce sont des objets mathématiquement, des morphismes très différents, et il faut faire attention si on formalise toutes ces choses. Et je ne crois pas que ça, c'est ce que nous voulons faire ici, parce que c'est très important, mais c'est aussi assez bureaucratique, mais très important et c'est la même chose dans la biologie moléculaire. Alors, du point de vue formal, c'est vraiment la même approche. Dans la chimie, il y a une différence qui est peut-être importante de tenir compte. Dans la chimie, la nature de cette, et aussi dans la biologie moléculaire, la nature de cette flèche ici, d'une règle. Une règle mathématiquement est vraiment un apparement de deux morphismes. C'est ce qu'on dit une span. Ce graphe K, alors ça c'est la partie, le schéma à la gauche, et ça c'est le schéma à la droite. Ça c'est l'avant et ça c'est l'après. Mais il y a un graphe K qui vous donne, vous dit ce qui est maintenu, ce qui est constant, ce que tous les deux contiennent. Ici, le graphe K, c'est seulement les choses noires ici. J'ai dessiné aussi les liens, mais c'est ça seulement pour la compréhension. Les liens verts sont les liens qui existent ici et n'existent pas ici. Les liens rouges sont les liens qui existent ici mais pas ici. Ce sont les liens qui sont à être détruits et les verts sont les liens qui apparaissent. Et alors, mais les objets noirs, qui dans ce cas sont les atomes, une liaison et l'électron dans le cas de la chimie est vu aussi comme un objet. Cet objet noir sont constantes, sont présents ici et sont présents ici. Et alors tout ce qui est dans L, dans le schéma L, et n'est pas dans le schéma K, va disparaître. Tout ça qui est dans le schéma A et n'est pas dans le schéma K va apparaître. Et dans la chimie, alors, cette construction, ici, vous avez une particulière une molécule spécifique complètement, et vous voyez qu'il y a une correspondance avec cette partie gauche, ce schéma gauche ici. Et alors, la technique dans la réécriture des graphes dans la chimie est qu'il faut trouver la correspondance, il faut trouver l'analogue du K pour le contexte moléculaire où vous voulez appliquer la règle. Et essentiellement, ça veut dire, c'est un push-out complement, mais ça veut dire que essentiellement que vous devez, il faut faire un trou ici. Il faut faire un trou où vous pouvez. Il faut faire un trou où il y a la correspondance de L, si vous voulez, pour faire l'espace pour y mettre le R, et transformer cette structure. Mais le point est que ce trou, quand vous faites ce trou, cette structure ici, dans la chimie, doit être un graphe. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas détruire un nœud, un atome, parce que si vous détruisez un atome d'un point de vue graphique, alors vous avez un edge, un lien. Vous avez un lien qui n'a pas un nœud, qui n'est pas entre deux nœuds. Vous avez un lien qui ne connecte pas. Et ça, il faut éviter ça. C'est simplement une nécessité dans la chimie, mais dans la biologie moléculaire, nous n'avons pas cette restriction parce que dans cette situation, parce que nous voulons. Dans la chimie, normalement, dans une réaction chimique, il y a une conservation des atomes. Mais dans la biologie moléculaire, à un niveau plus haut de la biologie moléculaire, on peut avoir un atome, c'est-à-dire une protéine qui disparaît parce qu'il s'en va, il est détruit ou ça. Et alors, si vous détruisez un protéine qui est lié à une autre protéine, alors le lien, la connexion avec l'autre protéine s'en va aussi. Simplement. Alors, c'est une réécriture un peu différente que la chimie, mais pratiquement, l'esprit est presque le même. Dans ce monde de règles, vous pouvez avoir... Le monde de règles, c'est passionnant parce que, comme j'avais dit, une règle, au-dessous d'une règle, il y a... il pourrait être un autre monde de règles. Comme dans la chimie, il y a un monde de déplacements électroniques qui a un langage, un particulier langage, où vous pouvez décomposer ce qu'est une réaction, ce qu'est une règle au niveau de la chimie dans une série de déplacements électroniques. Mais vous ne, ces déplacements sont informatifs, si vous voulez construire ou dessiner une règle, mais ces déplacements ne sont pas représentés dans une règle. Alors, une règle est toujours un boîte à un certain niveau de gros grains, de grains grossiers, mais vous pouvez augmenter le grain grossier ou faire de raffinement. Okay. Et ça sera utile plus en là, parce que quelquefois on veut combiner, on veut composer des règles et en faire une règle composée. Mais ça, c'est risqué, évidemment, parce que vous perdez la concurrence. Mais quelquefois, il est justifié. Et bien, alors ça, c'est cette idée de... Non, une grande différence entre la chimie et la biologie, il y a beaucoup de différences, évidemment, d'un point de vue philosophique, peut-être. Mais parce que la chimie est beaucoup plus proche de la physique, les règles sont les règles ont une structure syntaxique ou une grammaire qui est plus restrictive. Dans la biologie, nous ne connaissons vraiment les règles. Nous savons par exemple que un atome de carbone a au plus 4 liaisons, mais nous ne savons pas pourquoi un particulier protéine a 10 domaines de 7 types, 4 domaines sites où il peut être phosphorylé, etc. C'est les valences d'une protéine, les capacités d'interaction d'une protéine ne sont pas, parce qu'elle est à un niveau beaucoup plus haut, ne sont pas ils ne sont pas soumis à une restriction physique comme dans la chimie. Ils se sont évolués. Alors, c'est beaucoup plus empirique. Une règle dans la chimie est empirique aussi, mais c'est pas si empirique comme dans la biologie. Alors, c'est-à-dire qu'il faut construire des règles dans la biologie, et c'est un grand problème. Tout ce qu'on peut faire est lire des textes et essayer de représenter ce qui est les connaissances biophysiques et les hypothèses de biologie structurelle que les auteurs décrit de les représenter dans cette graphe qui sont très simples. Alors il y a beaucoup de il y a un grand distance entre le langage riche physical, chimique des biologistes comme ils s'expriment dans des papiers et cette représentation formelle, simple des graphes de sites. Et au moment, cette distance peut être seulement couverte par dans votre tête. Mais il serait beaucoup plus utile s'il y aurait une façon de stocker, de stager un peu le processus d'extraction des règles de la littérature plus transparent. Et l'intervention de Jean Krivine cet vendredi a comme objectif un peu de nous dire ces réflexions, comme on pourrait faire ça peut-être. Et ça aussi nécessite des... Oups, sorry. Nécessite des formalisations, ce processus. Eh bien, il faut que je vais un peu plus vite ici. Dans la chimie, une autre chose très importante dans la chimie, et que, comme j'avais dit aussi dans l'inaugural, est que dans la chimie, c'est un peu les sites. Si les sites, si le concept d'un site signifie une capacité d'interaction, alors dans la chimie, un atome n'est pas un site. où un lien n'est pas un site, mais c'est un groupe des atomes qui est un site. Et c'est une, parce que c'est un groupement des atomes qui codifie la possibilité, certaines possibilités des interactions. Un hydroxyle groupe, un carboxyle groupe, un carbonyle groupe, etc. Alors, ce sont des groupes fonctionnels. Et dans une réaction chimique, ce sont exactement ces groupements qui sont détruits et reconstruits ou remodélisés. Et ça, c'est dans notre langage. Ici, vous voyez que cet groupement ici est complètement remodélisé. Et alors, c'est comme créer des sites nouveaux ou détruire des sites. Dans notre langage, dans la représentation graphique de la biologie moléculaire, les règles ne permettent pas d'introduire un nouveau site ou de détruire un site. Toutes les sites qui sont présents à la gauche doivent être présents sur la droite, sur la partie droite aussi. Alors, et ça, c'est parce que typiquement, l'interaction entre les protéines ne détruit pas, vous ne créez pas un nouvel domaine par interaction. Vous pouvez peut-être, parce que la liaison entre deux protéines peut construire une nouvelle poche ou une interaction, mais ce n'est pas la constructivité si claire comme dans la chimie. Okay? Il faut tenir compte de ça pour comprendre pourquoi, dans cette réécriture des graphes dans la biologie, les règles ne permettent pas d'introduire ou détruire des sites. Vous devez définir le site au départ. C'est pour ça que dans la chimie, il fait beaucoup de sens de faire des expansions statiques, c'est-à-dire de générer pas pour pas, par une itération, toutes les molécules qui peuvent être produites par un ensemble de règles. Si vous avez été au séminaire de Daniel Merkle le vendredi passé, il nous a démontré très, très efficacement, je crois, avec leur plateforme, comment on peut faire ça et les propriétés intéressantes de cet ensemble de ces réseaux de réactions qu'on peut construire par une application itérative de règles. Mais ça, c'est statique, dans le sens qu'il n'y a pas de dynamique, c'est simplement une itération. Parce que la constructivité, c'est moi dans la biologie moléculaire, la constructivité est plus c'est plus un changement d'état des protéines, la combinatoire des états. Alors, l'évolution dynamique est beaucoup plus importante. C'est pour ça que dans la plateforme que nous avons développée, la dynamique était le but premier. L'analyse statique est très importante aussi, comme on verra un peu plus tard, mais la dynamique était nécessaire, parce que ce sont les comportements dynamiques où les choses intéressantes se produisent. Dans la chimie, c'est déjà dans le monde, dans l'exploration statique que des choses intéressantes se produisent. Et alors, la dynamique, ça veut dire que vous ne grandissez pas un ensemble monotoniquement, mais vous explorez dynamiquement l'état d'espèces possibles, parce que vous ne pouvez pas réaliser tous, évidemment, c'est trop. Et alors, le système stochastiquement explore différentes parties de l'espace guidées par la dynamique. Alors, ça, c'est l'idée. Eh bien, comment fait la dynamique? La dynamique, c'est une dynamique stochastique, c'est une Gillespie. Et je ne suis pas sûr s'il faut l'expliquer, mais je vous peux donner un aperçu général, et après on peut voir s'il est le cas d'entrer en plus de détails. Alors, l'idée est qu'on a une mixture au départ de molécules, on a un ensemble de règles, et pour chaque règle, on identifie toutes les correspondances que la partie gauche d'une règle a dans la mixture, et ça, intuitivement, vous dit est proportionnel à la probabilité avec l'activité de cette règle dans cette mixture au temps T. Et après, vous déterminez quand le prochain événement se passe, se produit, et vous déterminez quelle règle, probabilistiquement, quelle règle va être appliquée. Et après, vous devez recalculer, parce que la mixture s'est changée, vous devez recalculer les correspondances de la partie gauche de toutes les règles, parce qu'une interaction, un événement dans la mixture peut avoir changé, peut avoir détruit ou produit de nouvelles correspondances avec les parties gauches des règles que vous avez. Eh bien, brièvement, avant que nous présentions un peu cette schéma dans une manière un peu plus mathématique, il y a une règle, n'est pas seulement le changement un changement structurel, comme ici, vous avez un dimère qui se dissout, qui s'est détruit. Vous avez aussi partie d'une règle, c'est une composante d'une règle, c'est aussi une taux de ce qu'on appelle une taux de réaction. C'est qu'est-ce que c'est ce taux de réaction et comment est-ce qu'il est, qu'est-ce que c'est la relation entre ce taux stochastique et le taux classique. Ça, pour simplement vous dire vous donner une idée, imaginez que vous avez une disque A, une disque B, ce sont deux molécules et ils ont des rayons RA et RB. Et clairement, si A se déplace, alors A va effectivement couvre un volume qui est un cylindre avec le rayon R2 plus R1. Si un B se trouve dans cette cylindre, le cylindre a une longueur que dépend du temps. Alors A se bouge avec un rayon R2 plus R1. Et si un B se trouve dans le temps delta T, dans cette cylindre, alors vous avez une réaction dans un modèle simple comme ça. Si dans ce cas, la collision produit déjà une réaction qui c'est évidemment complètement ridicule, mais seulement d'un point de vue conceptuel. Alors, ça, c'est le volume que notre A couvre dans un temps delta T. Dans cette volume, dans une situation classique, dans une situation où vous avez des concentrations, des nombres continus de concentrations, dans ce volume, vous avez une concentration de B qui est propre. Le nombre de B, la concentration de B dans ce volume est simplement ce volume multiplié par la concentration dans tout le. Dans le volume entier. Et ça, c'est pour un A. Et si vous avez. Si vous tenez compte de la concentration des A, alors les opportunités pour A et B d'interagir dans ce volume sont données comme ça. Et de cette façon, et alors ça c'est le nombre de B dans ce volume couvert par A. Ça c'est le nombre d'opportunités pour A et B parce que le nombre de A dans le volume total et la concentration multipliée par le volume total B. Et alors le taux de réaction par unité de temps et par unité de volume, vous divisez par le temps et le volume, c'est cette expression ici. Alors vous finissez avec une expression qui est le produit de deux concentrations et une constante, et cette constante exactement est la constante de réaction dans un contexte classique. Dans un contexte stochastique, vous vous regardez, vous concentrez sur le nombre des particules de type A et de type B. Et alors, vous remplacez les concentrations par le nombre divisé par le volume. Et alors, vous avez une cancellation de cette V. Et à la fin, vous avez un facteur qui est une probabilité, c'est-à-dire le bougement, le déplacement de B, de A dans le volume V produit un subvolume delta V, une fraction, B couvre dans un temps delta T une fraction du volume V qui est delta V divisé par V, et c'est une probabilité, c'est la probabilité de trouver un A dans ce volume est proportionnelle à delta V divisé par V et le nombre des A. Et alors, de cette façon, vous trouvez que la correspondance, ici aussi, vous avez une expression où vous avez un produit entre deux fréquences des particules, NB et A, et cette constante est le taux de réaction stochastique. Alors là, dans cette calculation très, très simple de ce disque rigide, la correspondance illustre la correspondance entre la classique et la stochastique, entre le cas continu et le cas discret stochastique, parce que avec ce raisonnement, le taux stochastique est le taux classique divisé par le volume. Simplement, dites autrement, est que dans les cas stochastiques, la probabilité, vous raisonnez avec le nombre de particules dans un volume fixe, et alors la probabilité de collision entre deux particules, évidemment, est proportionnelle au volume le volume de réaction. Si vous avez un volume très étroit, alors vous avez une beaucoup plus haute probabilité de réaction, simplement parce que chaque molécule couvre dans un delta T une fraction de volume plus grande. Si vous avez un volume très grand, alors la fraction de volume couvert dans un delta T est plus bas, et la probabilité d'une collision est mineure. C'est tout ça. Alors, ça, c'est le concept de mixture. Je crois que c'était évident qu'une mixture est une représentation des molécules dans tous leurs détails au niveau d'abstraction de cette graphe. C'est-à-dire, dans une mixture, vous avez chaque agent qui est présent fait voir... expose tous les sites qu'ils possèdent et leur état. Et une règle, alors, est une. Pour appliquer une règle à une mixture, ça veut dire chercher une correspondance de la partie gauche dans la mixture. Et il y a beaucoup de correspondances dans ce cas, parce que une règle, comme j'avais dit, est une relation entre des schémas, entre des patterns. C'est-à-dire, les agents dans une règle, typiquement, n'exposent pas tout leur site, parce qu'une règle dit seulement, une règle explique une règle... expose seulement l'état qui est nécessaire pour une interaction. Et s'il y a des autres, A et B peuvent avoir des autres états, mais s'ils ne sont pas nécessaires pour cette interaction, ils ne sont pas mentionnés. Et ça, c'est l'idée d'un schéma, exactement comme dans la chimie. Et alors, vous pouvez trouver une correspondance entre la partie gauche de cette règle dans la mixture. Ici, par exemple, le B possède une autre site P qui est dans les teintes noires, disons, déphosphorylées. Mais cette règle ici ne mentionne pas le site P. Et ça veut dire que l'état sur le site P n'a aucune importance pour l'application de cette règle. Alors, il y a une correspondance, un embedding de cette partie gauche dans il y a trois embeddings ici. Et vous transportez après cette transformation, vous réécrivez le graphe où vous avez choisi la correspondance dans une... selon la règle, et ça veut dire dans ce cas ici vous avez une dissociation, okay? Et l'activité d'une règle, c'est-à-dire la propensité pour une règle à s'appliquer, à être appliquée, ou à induire une réaction est proportionnelle à au taux stochastique de la règle et le nombre de correspondances que la partie gauche de cette règle a dans la mixture S à ce temps-là. Et ça, nous modifierons ça un peu tout de suite. Eh bien, alors, c'est important de tenir bien compte que le taux de réaction stochastique d'une règle, mais pour ça aussi d'une réaction, le taux stochastique dérive du taux classique par division du volume si la réaction est bimoléculaire, comme dans l'exemple que j'avais montré avant. En général, si votre réaction a un degré, a une molécularité de N, c'est-à-dire le nombre de particules différentes qui participent dans une réaction est N, alors le taux stochastique est le taux classique divisé par le volume à la puissance de N moins 1. Alors, ça veut dire qu'une réaction qui est unimoléculaire ne dépend pas du volume, ça fait beaucoup de sens parce qu'elle ne dépend pas d'une collision. Alors le volume peut être si grand comme vous voulez, mais ça ne change pas la probabilité d'une rencontre, d'une collision. Eh bien, je crois être un peu plus vite ici. Là, beaucoup de vous, je crois, connaissent l'algorithme de Monte Carlo pour faire des simulations. Si on connaît les activités de règles, et essentiellement, ça est basé sur le fait que une réaction, d'un point de vue de la physique fondamentale, une réaction, le temps quand une réaction se produit et le processus d'une réaction est memoryless, n'a pas de mémoire, c'est-à-dire la probabilité qu'une réaction se produit à ce moment maintenant est indépendant du temps passé. C'est-à-dire le risque d'une réaction, si vous voulez, ne dépend pas du temps. Et alors, la probabilité que nous aurons une réaction dans un temps T est distribuée par une densité exponentielle. C'est la seule distribution de probabilité, la densité de probabilité qui a cette propriété d'être indépendant du passé. Alors c'est exactement le contraire du vieillissement. Dans le vieillissement, vous avez le risque qu'un événement se produit et dépend du temps. Et alors, vous avez toujours un exponent, mais le taux A, ou l'exponent. L'exposant, maintenant, ici, A, L'exposant maintenant doit être intégré avec le temps parce qu'il dépend du temps. Ça, c'est dans la statistique du vieillissement. Mais ici, si le risque ne dépend pas du temps, alors vous avez une distribution exponentielle. Et si vous allez chez un lac et il y a un seul poisson dans ce lac, vous essayez de le pêcher. Si vous avez attendu une heure sans capturer le poisson, ça ne fait rien, ça n'augmente ou décline pas la probabilité de le capturer dans le prochain instant. C'est la même chose avec les réactions, et les réactions élémentaires. Et si vous avez plusieurs dans une réaction A et B, où A interagit avec B, vous avez plusieurs de particules, alors vous pouvez vous demander alors il y a beaucoup de possibilités pour la première réaction de se produire, et on peut calculer très facilement la distribution de la distribution de probabilités pour la première collision entre A et B, si vous voulez. Parce que c'est tout. First order statistics. C'est comme vous avez pour chaque combination, pour chaque combination NA par NB de possibles interactions, vous avez une distribution exponentielle que cette particulière réaction de cette particulière instance se produit, et alors vous prenez ça qui se produit qui est la première à se produire, et ça c'est aussi, on peut démontrer très très simplement une distribution exponentielle aussi, mais dans ce cas maintenant le paramètre de cette distribution exponentielle est le nombre de combinaisons réactives qui existent, c'est NA par NB. Eh bien, je ne veux pas perdre trop de temps ici parce que je suis trop long, je crois. Pour procéder à simuler stochastiquement un ensemble de règles, vous calculez avant le si vous êtes au temps T et vous avez une mixture, un particulier contenu de votre réacteur à temps T, vous calculez toutes les activités de règles possibles en comptant les correspondances des parties gauches dans la mixture. Ça vous donne les activités des règles. Et avec cette information, vous pouvez calculer la probabilité que la prochaine réaction se produit dans un temps T, dans un temps T. Et c'est aussi une distribution exponentielle avec un paramètre qui maintenant est la somme de toutes les activités des règles. Et ça aussi, c'est si vous regardez si vous avez un moment de temps et vous réfléchissez sur toute l'information est ici. Et je place les diapositives sur le site, alors vous pouvez les regarder. Et alors ça, c'est la probabilité qu'un événement se produit, le prochain événement se produit dans un temps T. Et la règle que vous choisissez est simplement proportionnelle à son activité dans l'ensemble, c'est-à-dire c'est alpha I, c'est la probabilité d'applier règle I est donnée par l'activité de règle I divisée par l'activité totale du système. Clairement, toutes ces choses ici dépendent du temps, Parce que si vous changez le système, si vous changez la mixture, ça veut dire que les activités changent, ça veut dire que l'activité du système total change, etc. Alors, après chaque exécution, après chaque application d'une règle, il faut recalculer ces activités. Clairement, ça c'est... Pour les informaticiens, les algorithmes, ça c'est, on fait ça avec une certaine intelligence, évidemment, on recalcule, on sait, il y a des raisonnements avec lesquels on peut éviter de recalculer tout. On peut approcher ça d'une manière très efficace. Et ça, c'est vraiment ce que les informaticiens ici à Paris ont fait en développant cette plateforme, d'avoir un algorithme qui vraiment est très efficient. Bien, alors simplement pour repasser ça, c'est on a cette boucle qui est le cœur du simulateur. Bien, alors peut-être, oui, comme j'avais dit, pour rendre tout ça pratique, et nous verrons la prochaine fois, nous ferons des exemples très concrets. Pour rendre tout ça pratique, il serait utile d'avoir vraiment un environnement pour la modélisation. C'est-à-dire, c'est un rêve, rien de ça est vraiment réalisé avec cette intégration comme je montre ici, mais ça, ce sont les domaines qu'il faut vraiment occuper. C'est un système pour lire, peut-être un système qui n'est pas seulement humain, mais aussi inclut le natural language processing et inclut le lire électronique. Ou peut être natural language processing, mais aussi text mining. Il y a de différents niveaux pour extraire de l'information des textes. Mais notre expérience avec ça est que c'est extrêmement difficile de faire ça dans la biologie, parce que c'est dans la nature des textes biologiques, ils sont très ambigus. Il serait beaucoup plus facile dans la chimie. Dans la chimie, le problème est moins d'un côté est de lire les textes, mais le problème dans la chimie est plus de lire les diagrammes. C'est more an image processing problem. Ça serait intéressant aussi d'essayer de faire du progrès dans la chimie. Il faut un système pour assembler toutes les pièces d'information, un assembler, si on veut. Il faut un processus pour exécuter ça, nous avons ça. Il faut des logiciels pour après expliquer, pour comprendre ce qui se passe dans le modèle. Parce que, comme j'avais dit, ce modèle a tendance d'être très compliqué. Il faut les comprendre. Il y a des outils pour essayer de les comprendre. Mais je veux dire aussi qu'il n'est pas l'utilité d'un système comme ça n'est pas seulement en faire des modèles complexes, c'est-à-dire des modèles qui sont des grands modèles. C'est aussi extrêmement utile. On verra la prochaine fois. Ce sont très, très utiles pour des modèles petites, mais toujours des modèles qui ont des subtilités mécanistiques. Et alors, c'est comme programmer un peu. C'est un langage de programmation, Kappa. Et vous comprenez toujours un système mieux si vous essayez de le représenter dans un langage de algorithmique, je crois. Eh bien, alors, on a commencé à populer un peu ces différents domaines, et on parlera seulement on parlera essentiellement Jean nous racontera quelque chose dans cette area ici. Il y a de l'analyse statique, Il y a de l'analyse de causalité dont nous parlerons plus tard. Et bien, vous trouvez beaucoup de cet outil sur ce site, aussi avec un manuel de langage qui est très détaillé. Le manuel n'est pas encore très détaillé ce qui regarde l'utilisation des outils, mais il est très détaillé ce qui regarde la définition du langage. Faites-moi dire quelque chose brièvement sur la symétrie. Alors, il faut faire attention. J'ai dit qu'il faut modifier un peu, je crois qu'il faut modifier les activités des règles pour tenir compte de leur symétrie. Et ça, c'est le raisonnement. Alors, considérez cette règle ici. Ça, c'est une règle que de dissociation. Vous avez deux A qui sont liés et le lien se dissolve. Évidemment, cette règle est symétrique, dans le sens, au moins, c'est symétrique sur la partie gauche, parce que si ça, c'est une mixture, ici, vous voyez qu'il y a un dimère de A dans le système, et le A a des autres sites aussi, des sites S, il est modifié dans ces sites, mais la règle ne voit rien de ça. La règle voit seulement ce qui est nécessaire pour cette interaction, c'est-à-dire il essaie de trouver une correspondance seulement entre les types des agents et le type de site. Alors, évidemment, cette règle a une correspondance ici, et si cette règle, et si vous exécutez cette correspondance, si vous exécutez la règle dans le lieu de correspondance dans la mixture, vous simplement dissociez le dimère. Eh bien, c'est important de comprendre, comme dans la chimie, qu'une règle, c'est dans la nature mathématique d'une règle qu'il faut avoir une correspondance entre chaque agent. Il faut savoir quel agent sur la partie gauche correspond à quel agent sur la partie droite. Alors, parce que cette règle ne veut pas dire prends le dimère, détruis tout le dimère, tous les deux A de le dimère, et donne-moi de nouveau A. Parce que ça peut avoir des conséquences avec les liens que cet A ont dans la mixture. Non, ça veut dire simplement prendre ces deux A et simplement maintenir ces deux A, mais détruire les liens. Alors, il doit être une correspondance entre CA et CA, CA et CA. C'est ce que dans la chimie s'appelle atom mapping, où il faut savoir quel carbon sur la partie gauche correspond à quel carbon sur la partie droite. Ça fait partie du mécanisme. Et même chose ici. Alors, si je... mais il y a aussi une autre correspondance, parce que je peux mapper ce A au A qui a l'étiquette numéro 8 dans la mixture et ce A de la règle ici, dans cette position de la règle, sur le A qui a l'étiquette 9. Mais je peux aussi faire ça. Je peux mapper je peux mapper le 2 ici et le 1 ici. Je peux flipper. Et c'est aussi une correspondance. Et j'ai montré cette correspondance ici simplement flippant les deux A ici. Alors la position 1 est maintenant le A avec l'étiquette 2, la position 2 est là avec l'étiquette 1. Alors j'ai fait un isomorphisme, un automorphisme sur la partie gauche de la règle parce que c'est symétrique. Et si je fais cette opération, il faut faire la même opération sur la partie droite parce qu'il faut maintenir la correspondance entre les objets. Alors ici, l'objet 1 correspond à l'objet 1. L'objet 1 sur la partie gauche correspond à l'objet 1 sur la partie droite, etc. Ici, l'objet 2 doit correspondre à l'objet 2. Ici, l'objet 1. Vous devez maintenir cette correspondance. C'est essentiel pour la règle. Alors ça représente la correspondance quand vous flippez la partie gauche. Et si vous Si vous regardez l'effet dans la mixture, notez que la mixture n'était pas symétrique. La mixture avait un dimère A où un était pas phosphorylé et l'autre A était phosphorylé. Mais il n'y a pas un effet sur la mixture. Les deux mixtures qui résultent des deux correspondances sont pas seulement isomorphiques, ils sont identiques au niveau microscopique. Ils ne sont pas simplement les mêmes au niveau macroscopique, c'est-à-dire si vous oubliez les étiquettes, les labels, mais ce sont vraiment identiques. Ce n'est pas indistinguishable. Si vous regardez le cas B, où maintenant c'est la même règle comme dans le cas A, mais en addition de dissoudre le lien, il y a aussi une phosphorylation d'un des deux A. Alors, il y a deux actions dans cette règle, une dissolution du lien et une phosphorylation, un changement d'état sur ce site S. Si vous appliquez cette règle maintenant dans la mixture, vous voyez que dans ce cas, le numéro 1, le A avec le label 9, est modifié. Si vous faites si vous exécutez la règle avec la correspondance flippée, parce que la partie gauche est toujours symétrique, alors maintenant c'est le numéro 8 qui est phosphorylé. D'un point de vue macroscopique, les deux mixtures sont isomorphiques, c'est-à-dire d'un point de vue macroscopique, vous oubliez les labels, les étiquettes, c'est la même mixture, mais ce n'est pas identique au niveau microscopique. Et alors, et pourquoi ? Parce que dans tous deux les cas, la partie gauche était symétrique, mais la symétrie n'était pas maintenue à travers la règle. La symétrie sur la part gauche de la règle est maintenue sur la partie droite, ici, mais ici, il n'est pas conservé, parce qu'il y a une modification. Alors, si la symétrie... mon argument est que si vous avez une symétrie qui est préservée et qui est conservée par la règle, alors les applications possibles sont vraiment indistinguibles. Ils sont les mêmes, ils correspondent au même événement physical. Vous ne devez pas les compter séparément. Mais si la symétrie est cassée par la règle, et n'est pas conservée, la symétrie sur la partie gauche n'est pas conservée sur la droite, alors ce sont vraiment deux événements physiques différents. Ça fait du sens chimique aussi, parce que essentiellement ça veut dire ici que cette règle ici devrait en fait se produire avec deux fois il ne faut pas diviser par deux ici, parce qu'il y a vraiment deux possibilités pour phosphoryler. Cette règle peut phosphoryler. Il y a vraiment deux centres de réaction, si vous voulez. Alors, il y a différentes opinions. Une opinion, c'est l'opinion que je préfère, que j'essaie d'expliquer, est que le numéro de correspondance de la partie gauche dans la mixture doit être corrigé par doit être divisé par le numéro des symétries qui sont conservées par la règle, c'est-à-dire le minimum de la symétrie de la partie gauche et de la symétrie de la partie droite, parce que ce minimum est le nombre de symétries, des automorphismes qui sont conservés. Et il y a des autres qui maintiennent que non, il faut diviser seulement par la symétrie de la partie gauche. Et il y a des autres... même si qui disent « non, il ne faut pas diviser partout, du tout ». Et je crois que cet angle est un angle dans lequel vous avez de la stochasticité dans un système, dans le sens que vous choisissez quelle règle appliquer selon l'algorithme de Monte Carlo. Mais une fois que vous avez choisi la correspondance, l'application de la règle est déterministique. Ce cas ici est essentiellement dit que si vous avez choisi une correspondance, dans ce cas ici, les deux correspondances sont choisies par hasard et aléatoirement. Merci. Et je ne suis pas sûr si ça c'est une. Pour moi, une règle est une relation déterministique, comme j'avais dit, c'est une question ouverte. Les mathématiciens disent il faut diviser. Absolument pas. Mais je crois que ça, c'est un peu extrême, parce qu'il ne tient pas compte du significat physique d'une mixture, que des applications qui sont indistinguibles, parce qu'il laisse la mixture microscopiquement identique, doivent être, je crois, il fait sens de les identifier. En tout cas, la plateforme ne fait pas ce choix pour vous. C'est vous que vous devez, c'est le modélisateur qui doit choisir. Il serait utile si on avait un peu, si la plateforme vous aiderait dans l'identification des symétries. Et c'est absolument possible, c'est simplement pas implémenté encore. Mais on sait comment faire ça. Une seule chose pour finir, si vous me donnez deux minutes. Il y a un autre problème. C'est un problème de l'ambiguïté. Si vous avez une règle comme celle-ci qui lie deux agents, rien dans la règle, exactement comme dans la chimie d'autres fois, la règle ne vous permet de. La règle peut être appliquée entre deux molécules dans la mixture ou dans la même molécule dans la mixture. La règle ne prohibit pas ça. C'est-à-dire, vous pouvez choisir la correspondance de 7A à 7A ici, de 7A à 7A ici, et vous avez une réaction bimoléculaire. Vous arrivez à cet résultat. Ou vous pouvez choisir de correspondre 7A ici à 7A ici, 7A, 7A ici. Alors vous avez une réaction intramoléculaire, unimoléculaire, et vous arrivez à cet résultat-là. Il faut distinguer entre ces deux situations parce que, comme j'avais dit avant, le taux de réaction stochastique dépend du volume, si la réaction est unimoléculaire ou si elle est bimoléculaire. Alors, si l'application de cette réaction est entre deux molécules, alors il devrait suivre un taux de réaction qui a une proportionnalité inverse au volume. S'il est appliqué dans une molécule, alors il est indépendant du volume. Et alors, dans ces cas, la plateforme vous permet de définir deux taux de réaction. Un taux de réaction qui est pour les cas bimoléculaires, un taux de réaction pour les cas monomoléculaires. Et la plateforme exécute cette application avec la correcte probabilité. Mais c'est très coûteux parce que maintenant, on casse un peu le passage à l'échelle, parce qu'il faut maintenant. Les algorithmes doivent suivre les différentes instances uni- et bimoléculaires. Ça peut coûter cher, mais c'est nécessaire parce que simplement biophysicalement, ce sont des cas différents. D'autre côté, c'est très agréable pour le modélisateur parce que vous pouvez choisir un des deux taux, zéro. Et dans ce cas, c'est comme dire, vous ne voulez pas des rings, des anneaux. Vous pouvez, dans ce cas, vous pouvez interdire. On peut interdire certaines réactions. Mais comme j'ai dit, c'est coûteux. Si c'est possible, on peut éviter ça, dans certains cas, par raffinement des règles, par ajouter du contexte pour désambiguer les cas uninucléaires et bimoléculaires. Si vous le faites ça avant, dans votre modèle, c'est beaucoup plus efficace. C'est presque la fin, mais il y a deux diapositives, mais nous faisons ça la prochaine fois. Merci pour votre patience.